Un jour, un livre, un auteur qui se poursuit de semaine en semaine. Bonjour Philippe Jouni.
Bonjour Philippe Subercase.
Et attention, bonjour Monsieur Diego Rabal.
Monsieur, oui
bonjour
monsieur.
Bonjour Philippe, bonjour Philippe.
Grand maître, on va l'appeler
et
maintenant.
Et je dis monsieur parce que, ben voilà, c'est quel personnage Diego Rabal.
Tout à fait, tout à fait.
Merci les amis.
Je regrette que cette semaine, il ne nous ait pas mis cette magnifique cravate.
Oui, moi aussi. Je suis très déçu.
Qui lui sied parfaitement.
Mais les semaines se suivent et ne se ressemblent
pas. Exactement. Ouais. Alors, nous avons aujourd'hui un invité en studio.
Tout à fait. Et on va parler avec lui de scoutisme, entre autres, pas que, dans cette émission littéraire donc comparable à nul autre. Il s'agit d'un roman de guerre et d'aventure, mais pas que. Son titre, sans attendre d'autres récompenses, aux éditions Iconia, où se mêle la petite histoire d'un jeune scout français bouillonnant qui se lie d'amitié avec un Allemand dans les années 30, et la grande histoire, théâtre de leur destinée, pendant la campagne de France de 1940. L'auteur a voulu transmettre sur fond de drame la valeur des enseignements du scoutisme et comment cet enseignement a contribué à forger bien des âmes pour les aider à s'élever. Pour en parler, nous recevons son auteur, Christophe de Saint-Sal.
Bonjour Philippe, et merci de me recevoir.
Alors, votre roman est également un hommage à l'un de vos ancêtres, donc qui a été tué au combat en 1940.
Oui.
Vous en parlez donc à la fin du roman. C'est un roman qui est extrêmement fouillé, extrêmement bien documenté. Expliquez-nous pourquoi vous avez voulu faire ce roman qui parle effectivement du scoutisme. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette histoire et quel message vous avez voulu envoyer à celles et ceux qui vont vous lire ?
Ce que je voulais faire passer, surtout, c'était transmettre aux jeunes générations une part d'histoire. Et c'est une part de la grande histoire. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on a un roman qui est immergé dans l'histoire de France. L'histoire, en général, c'est une matière qui m'intéresse beaucoup. Et alors, je ne suis pas du tout écrivain de profession. Par contre, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, depuis longtemps, je me pose la question, qu'est-ce qui peut m'épanouir en dehors de mon métier ?
Et alors, qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas, à un moment donné, de partir ? Parce que là, c'est vrai que vous mettez en scène deux jeunes scouts dans votre roman dans le début des années 30, donc, dont la particularité, hein, c'est que l'un est allemand et l'autre est français. Hein. On rappelle, ça serait dans le contexte d'aujourd'hui, il n'y aurait pas de souci, mais on rappelle le contexte, on est dans l'entre-deux-guerres. Hein, et on sent bien, effectivement, que commence à monter, effectivement, le nationalisme de part et d'autre. Il se retrouve plus tard précipité dans la campagne de mai 1940, ben l'un d'un côté, l'autre de l'autre, avec des valeurs, du scoutisme, l'honneur, la loyauté, le dévouement, la fraternité, la courtoisie, le respect de l'œuvre de Dieu. Et je me suis posé la question en lisant ce roman, je me suis dit, il y a un message derrière. Il veut donner un message à un moment donné, et je me suis dit, ben, il faut qu'on invite l'auteur pour lui dire qu'est-ce qu'il a voulu transmettre, qu'est-ce qu'il a voulu dire à un moment donné de lui-même au monde sur ce roman. Et puis, la mise en perspective peut-être qu'on peut faire avec l'heure actuelle et avec la guerre qui est revenue en Europe.
Alors, plus qu'un message, je voulais plutôt livrer des réflexions. Là, on voit que ce sont les héros, au début, donc les héros ont 13 ans, à la fin du livre, ils ont plus 20 ans. On voit qu'ils sont, ils sont issus de milieux divers, mais ils sont aimés, ils ont des valeurs, ils ont la vie un petit peu de monsieur tout le monde, et ils vont devoir à un moment donné se transcender. Donc moi je voulais plutôt, faire réfléchir sur la question comment on se comporte en tant que personne, quand l'histoire s'accélère d'un coup. Là, on voit bien, on a en 40, c'est ça qui est très intéressant. On se retrouve en deux mois dans une situation qui n'est absolument pas attendue et où les personnes vont devoir se révéler. Et alors, on connaît tous le destin de personnes un peu hors du commun, Et c'est la grande histoire qui nous la raconte, des gens qui ont créé l'histoire pendant ces 5 années, 40-45, par leurs décisions, par leurs choix, ils ont modelé l'histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce que... Parce que ces trois héros, c'est un peu nous, en fait. On est tout petit, on est charrié par les flots de l'histoire. Ça sert à rien de penser qu'on va changer le monde à ce moment-là par une décision une décision forte. En fait, on est juste ces trois héros se trouvent entraînés par les flots et vont devoir faire de leur mieux. C'est pour ça que je parle de scoutisme aussi.
Pour rester près de leurs valeurs, voilà. Ce qui est très difficile.
Voilà, mais à leur petit niveau. C'est-à-dire que Et nous, c'est pareil. Si à un moment donné, l'histoire s'accélère, il ne va pas nous être demandé de sauver le monde. Il va nous être demandé surtout de voir comment, là où on est, on peut faire des belles choses. On peut, on peut donner sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'on fait ce qu'on a à faire, qu'on fait la volonté de Dieu, comme dit la prière de saint Ignace. Voilà, donc l'exercice était ça. C'est-à-dire, voilà, on a trois enfants qui ont des défauts, des qualités.
Les mettre en œuvre.
Oui, les mettre en œuvre.
Et s'en servir pour essayer de ne pas se trahir. On sent bien qu'il y a cette volonté de la part de vos héros d'avoir été. D'avoir eu une éducation et de se dire, il ne faut pas qu'à un moment donné, on se retrouve en porte-à-faux avec notre éducation, sauf que on est dans une guerre. Il faut sauver effectivement sa peau. On voit que de l'autre côté, alors c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans votre roman, vous en parlez en page 166, c'est un fait qui est assez méconnu. J'avais vu un reportage il n'y a pas très longtemps dessus, c'était les prises de pervitine, donc qui est une amphétamine donc par les soldats allemands. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce fait historique, Diego Arrabal, donc qui ont été pris mais à très haute sur bien des corps d'armée pour que les soldats allemands puissent effectivement dormir très peu. Et vous en parlez en page 166. Alors je vais le lire, c'est ça que je trouve très bien dans votre roman, c'est qu'au-delà de l'histoire de ces trois personnes, vous parlez aussi de la grande histoire, vous rajoutez aussi des faits historiques. Où on apprend des choses, et c'est le propre d'un livre, c'est que le propre d'un livre, on en ressort, on se dit, tiens, ça, je ne le savais pas. Donc je vais le lire, vous dites, rapport de service, efficience des soldats au combat, service médical, 10e division de Panzer. Phase 1, les prises de pervitine ont été pratiquées à raison de 3 dosages journaliers au cours des 5 premiers jours de campagne. Aucun combat ne s'est déroulé, mais les tankistes ont roulé de longues heures, de jour comme de nuit. Résultat des auscultations, les pilotes indiquent n'avoir ressenti aucune fatigue, aucune saute sérieuse de concentration. Pour un viseur d'un char, c'est quand même nécessaire, quoi. Parce qu'on ne va pas se planter. Seules de courtes phases de sommeil à intervalles réguliers ont été nécessaires. Il n'a pas été constaté d'effet indésirable notable sur la santé. Une période de repos de deux jours s'en est suivie, sans prise de dose. L'ensemble du régiment est actuellement sous traitement depuis 3 jours. Des combats de plus en plus rudes ont eu lieu. Ça, c'est la phase 2. Vous pouvez nous dire là, comment vous êtes tombé sur cette information de la pervitine et comment vous avez voulu la réintégrer dans votre roman, parce qu'elle est intégrée de façon très logique, puisqu'il est intégré dans un régiment de chars. Donc forcément, il y a les panzers d'un côté, il y a de très bons chars français de l'autre, vous en parlez dans votre roman, tout le monde disait les panzers, on voit qu'en fait, les chars français que vous évoquez sont très bons, sauf que la tactique, on le voit bien, c'est ce qui est dit
la
notamment...
La tactique n'est pas la bonne,
oui. La tactique n'est pas la bonne. En même temps que je lisais votre roman, je lisais le livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, où il disait que c'était d'abord une défaite intellectuelle avant d'être une défaite effectivement militaire.
Clairement.
Comment vous êtes tombé sur cette info de la pervitine et comment vous l'avez intégrée dans votre roman ?
J'avais fait des recherches à un moment donné sur, la fidélité au combat. Ça m'intéressait de savoir comment, comment un Allemand qui n'est pas forcément proche d'idées national-socialistes se retrouve quand même dans la Wehrmacht à pouvoir batailler avec ses frères d'armes. Quels étaient les ressorts psychologiques qui fait qu'à un moment donné, son frère d'armes, c'est tout ce qui compte. Et là, il n'est même plus question de politique là-dessus. Il y a quelques lignes aussi à un moment donné entre deux amis allemands, Georg et Otto, sur ce qu'est cette fraternité d'armes. Et donc en creusant un petit peu ça pour l'armée allemande, je suis tombé sur un certain nombre de podcasts intéressants, dont un s'appelait les Junkies d'Hitler, et où je me suis rendu compte que effectivement les années 20, les années 30 et surtout en Allemagne, c'était les années de la chimie, de l'industrie de la chimie, et l'Allemagne avait une énorme avance sur tout le monde, sur cette industrie. Pour les besoins de la population civile, dans les années 30, bien avant les besoins militaires, il y avait à disposition des Allemands un certain nombre de produits avec dedans un peu de pervitine. Donc c'est une méthamphétamine de synthèse. Hein. Et dans des chocolats, dans des pâtisseries, dans un certain nombre de choses, à petite dose, on en mettait. On se rendait compte que la ménagère avait une meilleure humeur une fois après avoir mangé ses chocolats, que dans les cercles privés, eh ben, on était un petit peu plus euphorique ou on faisait la fête un peu plus longtemps, c'était sympa. Voilà. Et c'est parti de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'armée s'y est intéressée.
Est-ce que vous pensez qu'on peut parler, il y a eu le procès il n'y a pas très longtemps, effectivement, vous savez, par rapport à l'emprise chimique, est-ce que par rapport à ça, dans ce que vous évoquez dans votre roman, vous pensez que là, il y a une emprise, une volonté d'emprise chimique pour arriver à faire en sorte que, en 1940, les soldats allemands soient supérieurs aux soldats français en prenant de la pervitine et de pouvoir gagner la bataille? Vous parleriez, vous, de presque de soumission chimique à un moment donné?
Ah bah clairement, oui. Alors, soit dit en passant, c'est pas, y a pas que l'armée allemande. Hein. Même l'armée américaine avait sa propre méthamphétamine.
D'accord, ça je dirais aussi.
Les Français, c'était plus le vin, je pense.
Ah, bon, ça c'était pareil en 14. On avait repris les recettes de 14-18. Alors ça, oui, ma grand-mère m'en avait parlé de ça, oui.
Mais l'idée maîtresse, c'était de faire des hommes augmentés, comme quoi rien n'a changé. C'est toujours un petit peu...
Avec d'autres technologies. Soit
avec d'autres technologies, mais on voulait faire un surhomme, un super guerrier. Et par contre, je pense que personne n'avait encore idée de la dépendance à la drogue que ça allait donner.
Vous l'évoquez à la fin des ravages, mais vous l'évoquez.
Incroyable. Il y a eu des petits essais en Pologne. Pour la campagne de France, haute dose. Parce que quand ils sont arrivés à Abbeville, au bout de quelques semaines, sans s'arrêter, les divisions de Panzer, il fallait qu'ils tiennent. Hein. Donc, il y a eu donc à haute dose pendant la campagne de France. Et tout le long de la guerre, ça a continué. Sur le front russe, à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte que quand il y avait plus de... plus de stock, et ben certains soldats faisaient des dépressions, certains se suicidaient. Enfin, il y avait, voilà, c'est vraiment les symptômes d'une dépendance de drogue. Mmh. Et on s'est retrouvé en fin de guerre avec un nombre de drogués, de jeunes surtout drogués dans la rue dans les années 45-47. Ça a été un vrai problème.
C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, hein, je rappelle, hein, sans attendre d'autres récompenses, hein, pour celles et ceux qui prendraient l'émission en cours de route, on reçoit Christophe de Saint-Sal donc, pour son roman Sans attendre d'autres récompenses. C'est un fait, moi, qui m'a... alors, que je connaissais, mais que vous développez. C'est-à-dire, vous ne faites pas qu'en parler. Hein, si je reprends, donc, en page 166, ce que vous mettez au niveau de la phase 2, quand les combats commencent, vous dites « Une confiance en soi accrue au moment du char, au moment du combat, pardon, je ne ferai que citer l'un des chefs de char, je me sentais la capacité de pointer posément et rapidement. Après le premier tir, j'ai su que cette capacité était une réalité. » Une aptitude au risque incroyablement développée, je citerai cette fois-ci un pilote, je me suis senti euphorique, auparavant je devais combattre mentalement pour ne pas me laisser gagner par la claustrophobie, puisqu'il est dans un char, pendant tout le combat j'ai amené le tank sans faillir sur des positions de tir favorables, j'avais confiance en mon chef de char, c'est-à-dire que ça ne développait pas que les capacités physiques, mais aussi La confiance en
la
soi.
La confiance en soi, oui.
Et en fait, ce que vous mettez, c'est que on voit comment la pervitine, à un moment donné, bah, distribuée à grande échelle, hein, c'est pas que 1000 ou 2000 soldats, mais à très grande échelle, a pu permettre effectivement à des soldats bah, de ne pas récupérer par rapport à des soldats français qui avaient besoin de dormir, de récupérer, donc qui n'avaient pas ces capacités d'hommes augmentés, hein, comme vous disiez, c'est-à-dire que ce combat, effectivement, il y est toujours. Ça, c'est un aspect de votre roman qui est méconnu, c'est pour ça que je recommande vraiment de le lire parce que on y apprend des choses quand même qui sont assez étonnantes. Quand au départ je l'ai lu, je me disais, bon ok, ça va être un roman sur le scoutisme. Et je me suis dit qu'on passe du scoutisme à la pervitine, on voit que d'un seul coup, voilà, vous embrassez, vous prenez le scoutisme, vous le mettez dans une guerre et vous dites, bon voilà, des gens qui ont été scouts, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans une guerre en étant chacun d'un côté et de l'autre ?
C'est totalement ça.
Voilà, en sachant qu'il y a eu, alors c'est ça qui est intéressant aussi, votre roman, je l'ai appris, je l'ignorais. Vous publiez à la fin des échanges, en fait des photocopies de l'époque, de journaux de l'époque, où il y a, et je pensais que c'était moi juste une imagination, votre imagination dans le roman, des échanges dans l'entre-deux-guerres entre des jeunes Allemands et des jeunes Français en scout d'un pays à l'autre.
Ah oui.
Et il y a une revue spécifique qui parlait de ça. Ça, alors, c'est un truc qui m'a... je suis tombé de l'armoire en lisant ça, parce que j'ignorais que ça existait.
Alors, ce sont les revues qu'on appelait Scouts de France.
Voilà.
C'était un mensuel, je pense, que tous les scouts pouvaient acheter. Et dans cette revue, il y a un certain nombre de choses. Il y a des petits articles, quelques topos d'aumôniers, deux, trois encadrés sur des techniques scouts. Et puis, à la fin, il y a les annonces. Effectivement, je cherche chef de troupe pour telle troupe qui manque de chef, etc. Et puis, il y a effectivement, et j'en ai été le premier étonné, des propositions d'échange. On est quand même les scouts de France.
En 31, voilà, c'est en 1931. J'ai regardé la date, c'est en 1931. 31,
voilà. J'en ai vu d'autres sur les années 33, 34. Alors, après, ça devient compliqué.
Oui, parce qu'après, il y a les jeunesses hitlériennes qui arrivent. Et donc, les jeunesses hitlériennes, à un moment donné, ben, tout ce qui est scout, tout ça, vont prendre ces gens-là pour éviter effectivement ces échanges. Moi, ça m'a évoqué votre roman, un souvenir, quand je suis parti donc en 1982 en stage linguistique en Allemagne. Je suis parti plusieurs semaines. Et en fait, on a été accueillis dans une commune par un maire qui avait été dans la Wehrmacht. Et donc, on était en 1982, il avait 60 ans, donc il avait 20 ans. Il avait 18 ans au moment du début de la guerre. Il a fait la guerre, il a fait la campagne de France. Et il nous disait, la meilleure façon de ne pas nous combattre, c'est que les jeunes, vous vous rencontriez. Et quand vous rencontrant, et c'est le message aussi, je trouve, que vous passez dans votre roman, c'est qu'à partir du moment où on se rencontre, on se dit, ben, ce mec-là, ça ne peut pas être mon ennemi. Je suis copain avec lui. C'est pas possible qu'un jour, j'aille me foutre sur la gueule avec lui.
Et pourtant, si deux nations, c'est là qu'on voit, sur les trois héros, j'ai essayé d'avoir trois caractères un peu différents.
Ouais.
Il y en a un, c'est un petit peu un parangon, c'est Henri, parce qu'il faut toujours, dans un roman, je trouve, un exemple un peu pur pour drainer les autres. Et les deux autres, il y en a un, quand il va à la guerre, il y va tête baissée, et l'autre, il y va en reculant. Et dans les trois cas, hein, ils y vont de toutes les façons. Parce que,
il y en a plein qui désertent, c'est ça qui est important.
Non.
Quel que soit leur...
Parce que c'est pas du tout dans les mentalités de l'époque aussi. Il faut vraiment se remettre dans les mentalités de l'époque. Je le développe rapidement et trois fois de suite. À un moment donné, l'un va faire ses classes. Et il y a le sergent instructeur qui fait passer le message à toutes ces futurs combattants qu'il va falloir qu'ils se trouvent un dénominateur commun. Ils viennent de classes sociales différentes, ils viennent de religions différentes. Certains sont athées, certains sont catholiques. Ils voient l'histoire de France d'une façon différente. Et pourtant, il va falloir qu'ils se trouvent un dénominateur commun pour pouvoir défendre la terre commune, la terre de leurs ancêtres, qui est la France. Et ça doit les transcender. Et un petit peu plus loin, on parle aussi des difficultés de Georg pendant la campagne de Pologne, et où il va se retrouver confronté à des faits qui sont durs, où il se retrouve à se dire, mais est-ce que je suis fier d'être allemand ou pas ? Et malgré tout, au fait, il maintient cette fraternité d'armes parce qu'au fait, la terre, quelquefois, la nation, mais la nation est liée à une terre, est plus forte que des convictions. Même si ce qu'il a vécu quand il était jeune en camp scout avec ses amis français, c'était fort, et même, je dirais, en tant que catholique, aux yeux de Dieu, c'est beaucoup plus fort, il se retrouve, encore une fois, embarqué dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que lui, où il peut pas lutter, et où son devoir, c'est de se battre pour sa nation. Voilà. C'est ça qui est dur, au fait. Et c'est ce que le scoutisme a essayé un petit peu d'atténuer après la guerre. Il y a eu des grands rassemblements. Il y a eu un rassemblement à Vézelay. Ça, c'était très fort. À Vézelay, en 1946, toutes les nations venaient, donc représentées par des jeunes gens, des scouts, mais pas que. Chacun avait une croix avec le nom de son pays. Et puis, on montait vers la basilique de Vézelay. Je ne sais pas si vous connaissez Vézelay, c'est une colline. On montait vers Vézelay avec sa croix. Et il y avait un camp de prisonniers allemands, en 1946, juste à côté. Et ils sont venus nous demander en disant « Mais nous, on peut faire notre croix aussi ?» Et tout le monde était un peu gêné. Puis, je ne sais pas qui a décidé, mais ils sont venus voir les Allemands en disant « Ok, faites votre croix, marquez Allemagne dessus et venez avec nous. » Donc, ces prisonniers allemands qui étaient dans le coin ont fait leur croix, une grande croix en bois, et ils se sont insérés dans la file avec les autres pays et ils ont monté leur croix.
Sans qu'il y ait après de contestation.
Non.
De...
Cette croix où il y a marqué Allemagne dessus, elle est encore dans la basilique de Vézelay.
Elle est encore dans la basilique de Vézelay, d'accord.
Ouais, ouais. Et il y a ça, il y a eu un grand jamboré pour la paix quelques années après. Pour essayer, au fait, de recréer une fraternité scout au-delà des frontières. Et c'est pour ça que le scoutisme est aussi une part importante dans cette histoire, c'est parce qu'elle contribue à la paix. Même si, et ben, à un moment donné, par fidélité pour son pays, on s'engage, même si on n'est pas d'accord, d'ailleurs, sur les tenants et les aboutissants, hein, eh bien, il faut savoir, après, refaire une fraternité des nations. Voilà. Et le scoutisme peut aider, le scoutisme a aidé, pendant des longues années, à construire ça.
J'ai rapproché votre livre, je le disais tout à l'heure, je vous le disais hors antenne, avant qu'on commence cette émission. En même temps que j'ai lu votre livre, je lisais de Marc Bloch, L'étrange défaite. Et dans L'étrange défaite de Marc Bloch, vous en parlez dans votre roman, quand vous dites que l'armée française est mal équipée, etc., qu'elle ne peut pas arriver à résister. C'est un point que vous développez, qui est très intéressant, puisque vous comparez à un moment donné les chars français et les chars allemands. Vous décrivez énormément le char français, très précisément. Du coup, j'ai été voir sur Internet, parce que je me suis dit quand même, j'étais intéressé. Puis ça réévoquait une chose que m'avait dit mon grand-père, il m'avait dit durant la Seconde Guerre mondiale, il m'avait dit, tu sais, juste avant la guerre, mon grand-père était militaire, il m'avait dit, j'ai vu 1000 chars dans un bâtiment qui était immense. Et il me dit, on avait de très bons chars, le problème c'est qu'on les avait disséminés de partout, au lieu de faire effectivement des divisions, comme l'ont fait les Allemands, qui fonçaient. Et Marc Bloch dit bien que cette défaite, c'est une défaite intellectuelle. La défaite de 40. Et c'est vrai que c'est un peu ce que vous sous-entendez aussi dans votre roman. C'est aussi une défaite intellectuelle par rapport aux valeurs. Parce que ces valeurs que je citais tout à l'heure du scoutisme, quand du jour au lendemain on a cette fraternité avec ces échanges entre Français et Allemands, puis que là on se retrouve, ben, que deux scouts peuvent arriver à se tuer parce que ben, ils sont pris dans le combat. Ça interroge. Et je trouve que votre roman, il tombe à point parce que, bon, on a la guerre qui est revenue en Europe, hein, entre la Russie et l'Ukraine. C'est quand même un fait qui doit nous interroger. Parce qu'on est né avec la paix, on a grandi avec la paix. C'est pas le cas de nos parents. Mon père, mon beau-père, la guerre d'Algérie. Avant, mon grand-père, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine. Mes arrière-grands-parents, dont mon arrière-grand-père qui est enterré à Verdun. Voilà, tout ça, ce sont des choses effectivement qui doivent interroger sur les valeurs. Et c'est pour ça que je me posais la question en lisant votre livre. Aujourd'hui, le scoutisme, j'ai moins la sensation qu'il serait plutôt en perte de vitesse, C'est-à-dire qu'il y a moins de gens, effectivement, qu'à une époque qui vont y être. Et vous, vous le remettez au centre du jeu pour dire, voyez, aujourd'hui, le scoutisme, c'est pas que des valeurs, c'est des valeurs de gens qui viennent de partout, qui, se connaissant, n'auront pas forcément envie de se faire la guerre. Est-ce que c'est ça aussi, ce message que vous avez voulu faire passer? Parce qu'on sent quand même que vous défendez quelque chose, quoi, derrière.
Alors, l'objectif du scoutisme est beaucoup plus large. Ça en fait partie, hein, mais l'objectif du scoutisme est beaucoup plus large. Le scoutisme est en perte de vitesse. Je dirais que c'est plus difficile à cause maintenant des réglementations qui sont très, très sévères, très strictes. Les encadrements d'un camp aussi. On va dire que... je pense que dans les années 30, on avait beaucoup plus de liberté sur la façon d'organiser et de faire un camp que maintenant. Mais moi, mes camps, quand j'étais chef dans les années 2000, je pense qu'on avait plus de liberté que maintenant, petit à petit, avec les normes, etc.
Les normes sanitaires, voilà.
C'est quand même dire ce pourquoi le scoutisme peut-être est plus en perte de vitesse. Ceci dit, le message du scoutisme, ce que Baden-Powell voulait, c'est rester inchangé.
Vous nous rappelez qui était Baden-Powell, parce que je suis pas persuadé que tout le monde.
Baden-Powell, donc c'est un lord anglais c'est lui qui a créé le scoutisme en Angleterre dans un premier temps.
À quelle époque ?
Fin 19e, début 20e.
D'accord.
À peu près. Après la guerre des Boers.
D'accord. En Afrique du Sud, donc guerre des Boers en Afrique du Sud.
Voilà, c'est d'accord. Ça. C'est ça. Et il a éduqué toute une jeunesse anglaise, comme ça, mais éduqué profondément, c'est-à-dire à l'école de la nature. Et l'école de la nature apprend énormément de choses sur soi-même et sur sa relation aux autres. Ça a très vite été capté par un bon nombre d'éducateurs dans le monde entier. Et je pense que...
Parce que c'est la création des collectifs, c'est ce qui intéresse l'armée, oui. Aussi. L'armée, c'est la création des collectifs, c'est ce que font les scouts. Les oui. Scouts, il y a vraiment cette création de collectif, on est tous ensemble, on avance ensemble. C'est un peu la devise qu'on pourrait dire. Hein. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est un peu la devise aussi du scoutisme. Et c'est ce qui va intéresser après aussi les deux armées allemandes et françaises, mais pour avoir un esprit de corps. C'est le propre quand même du scoutisme que de créer un esprit de corps avec des valeurs.
Alors oui, c'est quand même différent de l'armée sur pas mal de choses. Hein. Ceci dit, les scouts ont été encadrés par des militaires de nombreuses décennies.
De nombreuses décennies, voilà, on est d'accord. Décennies.
Mais il n'y avait pas cette volonté. Il y a un uniforme, comme dans l'armée. Il voilà. y a des lois, des règles de groupe, etc. La finalité n'est pas la même. Hein. La finalité d'une armée, c'est de défendre sa terre. Et la finalité du scoutisme, c'est de créer des hommes. Et ensuite, le scoutisme féminin est arrivé, et puis c'est aussi de créer des femmes qui puissent donner du fruit dans le monde dans lequel ils sont plongés. Ça reste vrai aujourd'hui. Hein. Ça reste vrai aujourd'hui. Il y a quand même une belle dynamique du scoutisme. Et les gens qui en sortent, sont appréciés au sein de leur entreprise, sont appréciés au sein d'associations aussi, sont des personnes qui sont engagées et qui sont sensibles au monde qui les entoure. Clairement, ça c'est quelque chose qui reste.
Voilà, Philippe Subercase pour cette semaine.
Merci beaucoup, on pose le sac à dos.
Merci à Christophe de Saint-Salle.
Merci à vous.
Christian. Et quand vous aurez un nouveau roman, vous pensez à nous et on vous réinvitera.
Il est en cours.
Ah, bon.
J'ai du temps. Il va s'appeler comment?
Alors, je ne l'ai jamais dit à personne. Hein.
Ah.
C'est chiant.
Bon, donc il faut passer à la radio.
Ne le dites à personne.
Il s'appelle De Burgundia. C'est un roman. De Burgundia en latin, ça veut dire à propos de la Bourgogne.
À propos de la Bourgogne.
Et c'est une suite de 20 nouvelles, de 20 pages à peu près chacune, sur 20 siècles de Bourgogne.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ah. Vous êtes bourguignon d'origine?
Je suis bourguignon d'origine.
D'accord, ok.
Je suis né à Nevers.
D'accord, ok. Ah ben, Nevers, oui, là où il y a...
Regardez, c'est pas beau, ça.
C'est pas beau, ça.
De Nevers à Lourdes, de Lourdes à Nevers.
Vous avez remarqué qu'on parle de la bienheureuse Bernadette.
Oui, tout à fait.
C'était là où, quand on en parle, c'est quelques temps avant sa canonisation.
Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, après ce cours d'histoire et de catéchisme, on va s'arrêter là et on se retrouve
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir.